Bonjour à tous. Une grande table qui s'inscrit dans le cadre de cette journée consacrée au désir de renouveau du politique. Nous verrons cela dans un instant, mais tout de suite les titres du journal présentés par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Autriche attend toujours le dépouillement du vote par correspondance pour savoir qui l'a finalement emporté à la présidentielle entre le candidat d'extrême droite Norbert Hofer et l'écologiste Alexander Van der Bellen. Premières indications peut-être tout à l'heure avec Ludovic Piétenu à Vienne. La guerre en Syrie et en Irak, le groupe État islamique revendique 7 explosions simultanées de voitures piégées en Syrie qui ont fait plus de 100 morts dans les fiefs du régime, du côté de la côte ouest notamment. Et puis sur le front est, les forces irakiennes, les milices alliées se lancent à la reconquête de Fallujah, 50 km de Bagdad, bastion depuis plus de 2 ans du groupe État islamique. On dira un mot de cette fusion gigantesque dans la chimie. Le géant allemand Bayer qui met 62 milliards de dollars sur la table pour acheter Monsanto, le groupe américain contesté pour ses semences OGM et ses pesticides. Et puis 5 des 8 raffineries françaises sont à l'arrêt ou en cours d'arrêt ce matin en raison des actions de protestation contre le projet de loi travail. C'est ce qu'affirme en tout cas la CGT. Michel Sapin juge que les blocages ne sont pas légitimes. Il accuse la CGT. Le gouvernement va utiliser tous les instruments, dit-il, à sa disposition pour les faire cesser, c'est ce qu'il déclarait ce matin donc le ministre des Finances. L'invité du journal, ce sera Florian Humez, porte-parole d'un think tank de jeunes pro-Macron. Voilà donc pour les titres. C'est à vous, Caroline, la grande table qui commence.
La grande table avec donc deux parties qui ont été pensées comme une seule aujourd'hui, autour de la jeunesse et de son rapport à la politique, avec un ancrage européen qui permet à la fois le décentrement du regard et le recul de la mise en perspective. En deuxième partie, nous déplacerons le regard vers notre voisin italien pour nous demander s'il fait le même constat que nous en France d'une crise de la démocratie représentative et si le désir de politique peut passer par l'Europe. Nous accueillerons le fondateur du Parti démocrate italien, Sandro Gozzi, qui publie un livre intitulé « Génération Erasmus ». Génération Erasmus, on pourrait considérer que c'est le titre de la première partie. Comment les jeunes Européens perçoivent-ils la politique ?
Je pense qu'il y a dans toutes les jeunesses actuellement un même malaise et qui tient, je pense, d'abord à cette condition générale de l'incertitude de leur présente où se trouvent la plupart des jeunes gens. Je pense qu'il y a chez eux une inquiétude et qui tient à ce qu'ils sentent le besoin d'un renouvellement dans leur vision des choses et dans le monde dans lequel ils se trouvent et que cette inquiétude à cet égard me paraît être féconde dans la mesure où elle exprime une sorte de crise de croissance. C'est pourquoi, à côté de l'élément commun d'incertitude générale, je dirais qu'il y a dans cette inquiétude un élément également qui peut être la genèse d'un monde nouveau, que la jeunesse sent d'une manière plus aiguë que les autres sphères de la société.
Bonjour Christophe Nick.
Bonjour.
Vous êtes producteur de documentaires réalisés dans le cadre de deux grandes enquêtes. La première a été diffusée largement en 2013, en particulier sous la forme de ces documentaires. Elle s'intitulait « Génération quoi ?» et la deuxième s'intitule « Génération what ?». Elle prend la forme à la fois de 4 documentaires qui vont être diffusés cette semaine sur France 4, mais aussi d'une plateforme internet interactive. C'est un vaste projet. Vous avez coordonné la mise en place du dispositif avec les chaînes européennes de services publics. Vous allez évidemment largement nous expliquer de quoi il retourne, puisqu'il s'agit en quelque sorte, et c'est vous qui le dites, d'un selfie géant de la génération européenne jeune, 18-34 ans. Bonjour à vous, Elisa Lewis.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente de Démocratie Ouverte, dont vous allez nous expliquer de quoi elle retourne également. Vous êtes à la fois à l'Université du Kent en Angleterre et à l'IEP, l'Institut d'études politiques de Lille. Vous accompagnez au sein du collectif Odyssem, les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le lancement et le développement d'initiatives à vocation sociale. Et vous êtes en plein dans la cible de l'enquête réalisée par un certain nombre de personnes et en particulier produite par Christophe Nick ici présent, puisque vous avez 25 ans. Vous savez ce qu'on a entendu comme archive à l'instant pour ouvrir cette émission? On a entendu une archive qui remonte à 1946.
À 46.
46. Ouais. C'était le journaliste et philosophe communiste Pierre Hervé dans le cadre d'une émission qui s'appelait Le mal de la jeunesse. Mais nous étions le 25 mars 1946. Malaise, incertitude, inquiétude et en même temps besoin d'un renouvellement, crise de croissance qui s'accompagne nécessairement de la jeunesse d'un monde nouveau. Finalement, rien n'a changé, Christophe Nick.
Oui et non. Rien n'a changé sur l'envie qu'a chaque génération d'être incarnée et de voir le monde changer à la vitesse de ses fulgurances. Bon. Là où ça a beaucoup changé, c'est que on a une génération qui n'a pas de place. Il y a un plafond de verre, elle est exclue, son rapport au travail, c'est au mieux un CDD.
C'est comme ça qu'elle se sent ou c'est un constat objectif?
Statistiquement, voilà, il se passe quelque chose qui est une rupture générationnelle par rapport à l'ensemble de la société. Si je regarde uniquement le rapport au déclassement, aujourd'hui, 27% des fils de cadres supérieurs sont ouvriers ou employés et 33% des filles. Donc ça, c'est un phénomène absolument nouveau. Donc on n'a pas sa place dans un monde où pourtant, et ça aussi c'est très nouveau, on est la génération la plus éduquée que la Terre ait jamais vue. Et donc ce paradoxe de fou, c'est-à-dire que par rapport à moi qui suis né à la fin des années 50, cette génération a 4 ans en moyenne d'études de plus. Et pourtant, elle n'a pas de place, ou elle est à la marge. Donc on a un problème qui n'est pas simplement un problème purement politique, de représentation, etc., qui est carrément un problème d'insertion. Et c'est pas seulement une société qui est bloquée, c'est l'ensemble du monde adulte qui, d'une façon ou d'une autre, se débrouille pour pas leur laisser de place.
Elisa Lewis, vous ressentez la même chose ?
Je pense qu'il y a qu'on vit en effet un paradoxe. De manière un peu provocatrice, on pourrait dire que finalement on est une, comme toutes les nouvelles générations, hein, on est une génération héritière d'un monde sans héritage. On connaît évidemment fortement le réchauffement climatique, les enjeux de transition écologique. On vit dans un monde aux incertitudes géopolitiques extrêmement fortes, extrêmement anxiogènes. On vit dans un monde où les acquis sociaux, notamment liés au travail, sont mis en danger. Donc on vit dans une société assez anxiogène, en effet, en tant que jeune, et en même temps, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, en même temps, je pense qu'il faut faire confiance à cette jeunesse, parce que cette jeunesse, elle a aussi de l'or entre les mains, elle est formidablement dynamique, créative, et elle commence en effet à dessiner des pistes de solutions pour le monde de demain. Et c'est vrai que c'est un peu dans ce clair-obscur que commencent à se dessiner les alternatives auxquelles contribue largement la jeunesse.
Alors est-ce que c'est ce qui ressort, ce paradoxe, de cette très vaste enquête, Christophe Nick, que vous avez conduite avec beaucoup d'autres personnes, hein, bien
avec
entendu.
Avec mes camarades du Pion.
Il y en a beaucoup. Ouais. Mais vous avez produit les documentaires qui ont été faits pour la télévision. Vaste enquête, donc française pour commencer, génération quoi, puis européenne, désormais, une enquête qui sera ensuite décortiquée par des sociologues. On aura les résultats statistiques chiffrés en novembre, je crois, dans le dernier courant de l'année 2016. Mais ce qui ressort de cette très vaste enquête en Europe, est-ce que ça vient confirmer ou infirmer ce sentiment général d'une jeunesse à la fois déboussolée, mais qui a de l'or dans les mains?
Alors, déboussolée, je suis pas sûr. Je crois qu'elle est assez lucide. C'est justement un des problèmes. Elle sait ce qui va pas. Elle sait ce qu'elle aimerait. Et elle en a pas partout les moyens. Et je dis pas partout parce que voilà, un des premiers signes qui nous frappe dans cette étude, c'est quand même, il y a différentes Europes. C'est très très clair. Il y a une Europe qui va bien, socialement, et qui est centré autour de l'Allemagne, de l'Autriche, des Pays-Bas, du nord de la Belgique. Là, on est dans une société où la jeunesse trouve qu'elle a à peu près les moyens d'exister, d'avoir sa place, etc. Le reste est en colère. Le reste dit à plus de 54% sur l'ensemble de l'Europe que si demain il y avait un mouvement de révolte de grande ampleur type mai 68, elle y participerait. On est à 61% en France. On est à 66% en Italie. On est à 54% en Irlande et même 61% au Royaume-Uni. Donc cette envie de révolte, elle est là. Mais quand vous regardez l'Allemagne, on est non. Pas de révolte à 62%. Donc on voit bien qu'il y a, il y a vraiment un noyau dur pour qui l'idée du chômage et de l'insertion dans une société pose pas trop de problèmes. Mais alors tout ce qui est autour de Francfort, j'allais dire, là ça va très très mal. Donc elle est lucide, elle est consciente, elle est révoltée. Alors révoltée, ça veut pas dire qu'elle se révolte, hein, mais qu'elle en a envie. Elle est extrêmement froide sur le rapport aux politiques. On a un chiffre et qui est pas par rapport au parti, hein, qui est vraiment as-tu confiance en la politique.
1% sur les quelques 300 000 répondants disent avoir tout à fait confiance en la politique. Ils sont voilà. 83% à répondre pas du tout.
Oui.
Ça, c'est une constante dans toute l'Europe, Christophe Nick.
Alors avec là aussi avec un degré nuances. Sur l'Allemagne, on est qu'à 64%. Bon, mais c'est quand même un rejet incroyable. C'est-à-dire que c'est pas simplement le personnel politique, c'est est-ce que la politique peut quelque chose ? Est-ce que entre le désir, l'envie et le faire et le possible, est-ce que tout ça est jouable ? Là, il y a un énorme désabusement à ce niveau-là. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de faire la politique, parce que il y a un autre chiffre. Est-ce que t'engager en politique, ça t'intéresse ? En gros. Je le fais et j'aime ça. Ils sont 8%, voilà, en Europe. Non, mais pourquoi pas ? Ils sont 33%.
Comment vous y êtes-vous pris, Christophe Nick, pour aller visiter quelques 12 pays ?
13, maintenant, il y a les Suisses qui nous rejoignent. Oh, bah, ça a été très long. Alors là, c'est l'histoire, mais.
Rapide genèse de ce projet. Rapide,
c'est quand on a fait cette expérience en France entre 2013 et 2014, ça a eu un tel impact, ça a marché tellement fort, qu'on s'est dit, d'abord, est-ce que la jeunesse française est spécifique, vu ce niveau de pessimisme, de colère, etc. On s'est dit, bon, voilà, là, faut mesurer. Et puis on s'est dit, il y a quelque chose dans le transmédia, là on est vraiment dans la politique médiatique, il y a quelque chose dans le participatif qui est devenu mûr, qui est mature, et qui fait qu'on peut faire le tour de l'Europe en leur proposant un projet comme ça. Chaque pays peut le faire. Voilà. Et ça a marché, voilà. Avec l'Union européenne de radiodiffusion, donc l'UER, on a fait un tour d'Europe très très long. C'est passionnant d'ailleurs hein, de poser
c'est
la question.
C'est assez général, d'ailleurs.
Oui, oui.
C'est évidemment pas seulement le rapport à la politique. Nous le recentrons pour les besoins de notre sujet aujourd'hui. Mais par exemple, les 4 documentaires de Génération Watt portent sur moi et ma famille, moi et le travail, moi et mes amis, moi et l'amour. Oui. Et ensuite, sur la plateforme internet et interactive, se trouvent énormément de dossiers, d'onglets qu'on peut sur lesquels on peut cliquer, sur lesquels les jeunes peuvent intervenir et répondre à des questions.
C'est un gigantesque questionnaire. Qui a pour but que les jeunes fassent eux-mêmes l'autoportrait de leur génération. Voilà. Alors, à coup de 150 questions, qui tapent dans plein de domaines, et chaque pays a son site, et tous les sites sont reliés à un hub central qui permet instantanément de se comparer soi-même avec la jeunesse de son pays, ou avec les autres jeunes, ou avec que les filles, ou que les étudiants. Enfin, il y a énormément de filtres. Et toutes ces questions dressent un portrait qui est quand même extrêmement vivifiant, qui fait vraiment plaisir à voir, qui a une ultra dynamique, qui a une énergie folle, et qui en même temps, cette lucidité les amène à être ultra critiques sur notre société. Mais alors à un point...
Bon alors on s'est amusé à aller cliquer sur cette plateforme, à aller chercher quelques onglets qui nous intéressaient pour cette première partie. Par exemple, Tous pourris, c'est un onglet qu'on trouve sur la plateforme, et voilà ce qu'on peut entendre extrait.
Un homme politique, de fait, représente une autorité, un pouvoir. Maintenant, ce que nous, on constate, c'est que, je vais parler pour moi, ce que je constate, c'est que leur pouvoir, ils l'utilisent à mauvais escient, ce qui fait qu'ils se discréditent.
Si déjà chacun s'évertuait à faire bien ce pourquoi est-ce qu'il est élu, bah, ce serait mieux. Mais après, c'est bien que les hommes politiques n'aient pas trop de pouvoir, faut qu'ils aient juste le pouvoir pour lequel ils sont élus.
Oui, puis c'est ce truc de distinguer les hommes politiques et nous... Ah, c'est nous aussi.
C'est nous aussi, voilà. Ouais.
chacun de nous, il y a, voilà, il y a un homme politique dans le sens où on a le vote, on a le pouvoir aussi de créer des associations, de se mobiliser, de descendre dans la rue, de réfléchir, de partager.
Le pouvoir politique est plus utilisé comme un catalyseur de l'opinion que comme vraiment un moyen de faire avancer certaines choses. Mais dire qu'ils n'ont plus de pouvoir, non, c'est pas vrai. Je pense que quand la population donnera du crédit aux politiques, les politiques auront un pouvoir peut-être plus visible et plus efficace.
Le refus de séparer finalement le côté politique du côté citoyen, le pouvoir c'est aussi nous, disent ces jeunes et les Alaouis, c'est ce qui correspond à ce que vous travaillez au sein de Démocratie Ouverte, donc c'est un collectif.
Oui, je pense que ça correspond tout à fait avec le constat déjà qu'on est peut-être la première génération collaborative, donc pour qui les notions de fluidité, d'horizontalité, d'échange, la possibilité de s'exprimer sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense est vraiment dans la culture de cette génération. La première génération, j'allais dire omnisciente, parce qu'on a quelque part une extension de nos cerveaux dans nos smartphones. Une génération aussi numérique et donc qui explore d'autres possibilités. Et tout ça rentre évidemment en contradiction avec les codes de la politique traditionnelle, avec les codes des partis politiques extrêmement hiérarchisés qui mettent sous tutelle ou marginalisent les militants qui sont relégués à la distribution de tracts ou l'organisation de réunions politiques, qui rentrent en conflit aussi avec des institutions qui fonctionne en vase clos et enferme le pouvoir. Et je pense que là, la révolution qui est en train de se faire, de manière pour le moment silencieuse, c'est cette prise de conscience qu'on a réduit la démocratie à la possibilité de voter une fois tous les 4-5 ans et de poser le vote comme le pouvoir suprême du citoyen pour participer à la vie politique. Je pense que c'est vraiment de ça dont on est en train de prendre conscience et on est en train de se reposer des questions fondamentales en fait. On est en train de se redemander, alors que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, qu'est-ce que c'est la démocratie ? Qu'est-ce qu'on a envie d'inventer aujourd'hui ? Est-ce que vraiment le meilleur système politique avec l'énergie des jeunes, les nouveaux moyens numériques, technologiques, est-ce que le meilleur système politique qu'on peut inventer aujourd'hui, c'est celui qui consiste à mettre dans une urne un bulletin de vote avec le nom d'une personne en général qu'on n'a pas choisi, dont on n'a pas forcément lu les programmes et qu'on ne connaît pas. C'est toutes ces questions qui sont en train d'être posées. Et donc nous, à Démocratie Ouverte, on est un collectif qui fédère des porteurs de projets, des réformateurs de l'État, des élus volontaires, parce qu'en effet, je pense qu'il y a une fracture qui est moins forte peut-être qu'on le pense en termes de personnes. Il y a des personnes, il y a des acteurs, il y a des acteurs de changement dans les institutions aussi. Et donc nous, on travaille avec tous ces gens-là, avec des citoyens aussi qui ont envie de s'engager, qui cherchent des solutions concrètes pour faire de la politique autrement.
Et vous en trouvez ?
Et on en trouve, tout à fait. Donc par exemple, on se rend compte que le système, encore une fois, des partis qui ont par exemple le monopole de la sélection des candidats aux élections, quand on sait que il y a à peine 0,5% de la population française qui est membre d'un parti politique, donc finalement c'est une infime partie de la population qui impose le choix des candidats à tous les autres. Et là, il y a une plateforme, par exemple, qui s'appelle laprimaire.org, qui cherche à faire émerger un candidat issus de la société civile aux prochaines élections présidentielles. On voit aussi d'autres types de mouvements comme le mouvement Ma Voix qui cherche à vraiment repenser de fond en comble la politique et la mobilisation politique. Ils viennent de présenter aux législatives partielles à Strasbourg un candidat tiré au sort parmi un collectif de citoyens. Alors pour ce premier tour et cette première candidature, ils ont fait fait 4,5% hier soir, donc devant le Parti communiste à Strasbourg. Et le pari de ce collectif, c'est non seulement de dire bah, finalement on peut tous être politique et la professionnalisation de la politique c'est dangereux pour la démocratie. Et c'est de lutter aussi et de repenser le rapport aux médias et à la personnalisation de la politique, puisque à partir du moment où un individu émerge sous le feu des projecteurs, eh bien, il est corruptible potentiellement. Et donc, ce qu'essaye de repenser ce collectif, c'est la mobilisation collective et comment est-ce qu'on peut porter une voix qui ressemble à la voix de tous. Alors, c'est un sacré pari. Et puis, s'ils arrivent au Parlement, le pari qu'ils font, c'est de voter toujours tel que les électeurs de ma voix l'auront fait sur une plateforme en amont. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions. Il y a aussi des initiatives qui permettent de coécrire la loi avec les députés, parce que c'est vrai que si on pense à la loi comme finalement le code qui régit la vie de tous, les règles du jeu de la société, il paraîtrait normal que tous ses utilisateurs, tous les acteurs de la société puissent y contribuer. Et ça, c'est le pari que fait par exemple la plateforme Parlement et Citoyens, qui permet de coécrire les lois, donc de rechercher ensemble entre députés et citoyens des solutions aux problèmes d'intérêt général. Cette plateforme a été expérimentée sur plusieurs projets de loi, sur la biodiversité, sur la République numérique. Et en fait, quand on donne les moyens aux citoyens de s'exprimer, eh bien, ils sont partants, et en particulier les jeunes.
Ça, c'est ce que vous avez constaté de façon globale, Christophe Nick, avec cette vaste enquête Génération Quad, d'abord en France et puis Génération Quad en Europe. Ils ont plein de choses à dire, on les écoute peut-être pas assez, mais ils ont beaucoup de choses
à dire. La plus grande illusion qu'on peut avoir sur cette génération, c'est de la croire indifférente. Ça, c'est une bêtise absolue. C'est les clichés qui nous font plaisir, nous les vieux. Au moins, ils sont cons, donc c'est mieux. Bon, en fait, pas du tout. Ils sont.
Ils ont le désir de. Ils ne cherchent pas à retrouver le désir de politique. Ils l'ont.
Complètement. C'est la politique.
Politique autrement.
Ne leur parle plus comme elle est. Bon, voilà. Mais ça va même extrêmement loin. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le système politique. Il y a le système médiatique qui est aussi rejeté, mais totalement. C'est-à-dire que les chiffres négatifs, confiance en la politique, mais confiance dans les médias, c'est encore pire, hein, au niveau de toute l'Europe. Donc on voit bien que c'est un système de représentation aussi.
C'est les institutions. On n'y croit plus aux institutions.
Alors pas toutes. C'est ça qui est étonnant. Donc il y a une grosse critique sur l'éducation nationale. Là, franchement, c'est aussi très nouveau. Parce qu'au moins, s'il y avait un truc qui marchait dans les rapports intergénérationnels, c'était le rapport aux profs. Là, il y a quand même un décrochage de confiance qui est majeur. Par contre, il y en a qui s'en sortent bien. Hein. La confiance dans l'armée, là, je peux vous dire que c'est des chiffres très positifs.
Dans toute l'Europe, là, vous parliez de différentes Europes tout à l'heure. Là,
c'est très très prégnant en France. C'est très l'Allemagne a toujours un petit problème avec son armée, bon. Mais non, c'est une institution qui s'en sort bien. J'allais dire la police aussi. Voilà, donc on peut y réfléchir. Mais je dois, au fond, quand je vous écoute, c'est voilà, ce qui me frappe, c'est qu'est-ce que le champ du politique aujourd'hui ? Il y a un personnage dans nos documentaires qui est une jeune Allemande. Il s'appelle Uta. Étude extrêmement brillante. Elle vient de Leipzig, donc d'Allemagne de l'Est. Elle a fait son bac plus 8 en droit. Elle rentre dans un gros cabinet de droit des affaires. Elle travaille pendant 3-4 ans de façon absolument impeccable. Et elle explose en plein vol parce qu'elle se retrouve à faire des contrats pour des centrales nucléaires et des marchands d'armes. Elle explose. Et elle se dit, si c'est pour ça que j'ai bossé, ça n'a aucun sens ma vie. Et donc on la trouve, elle est hôtesse sur des salons, voilà, où elle sert des cafés sur des stands. Elle me dit, je préfère un métier vide de sens, dans lequel je ne m'investis pas, j'ai juste un sourire, je prends l'argent et je construis ma vie ailleurs. Et donc ce côté de trouver du sens dans tout, ce côté extrêmement critique sur la société telle qu'elle est, qui n'est pas que sa représentation politique, qui est aussi, voilà, on le retrouve dans l'envie de faire, l'envie de construire soi-même. C'est-à-dire, on va pas attendre qu'il y ait une révolution, on va pas attendre qu'il y ait un parti politique qui prenne le pouvoir pour que les choses changent. Et ça, c'est l'autre pendant. Alors, si on réfléchit au succès d'un film comme Demain, on se rend compte qu'on est dans une lame de fond. extrêmement profonde et qui est voilà, quand on voit ce personnage, ce jeune Polonais qui s'appelle Pavel, qui lui aussi se retrouvait dans un truc d'architecture qui l'ennuyait profondément et qui, avec alors cette épidémie de Fab Lab, il faut s'intéresser à ça. Il y a des milliers de Fab Labs en Europe. C'est-à-dire des endroits où des jeunes technos retrouvent des geeks, des ingénieurs, des artistes, des mamies, etc. Et on a de l'imprimante 3D, des machines à découper le laser, et on fait en partageant gratuitement. C'est ça le mouvement très très profond, et que la vie en entreprise, la vie politique, la vie locale ne reflète pas ce désir de travailler ensemble gratuitement, d'échanger et de profiter. Et là, on retrouve cette génération numérique et des habitudes de partage.
Elisa Lewis ?
Ouais, je pense que c'est pas parce que la politique institutionnelle est discréditée que le désir d'engagement des jeunes a disparu. Bien au contraire, je pense que là, le champ politique, il est en train de s'étendre. Il n'a jamais été aussi important et aussi présent. Et ça commence en effet par la recherche de sens dans son travail. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment un des marqueurs très fort de ma génération. Enfin, moi, je vois autour de moi les gens qui s'interrogent vraiment sur le sens de leur travail. Et en effet, avec des fois des décisions qui sont pas toujours comprises par les adultes. Par exemple, de quitter un CDI dans une entreprise qui représente un peu toute l'image du succès pour prendre du temps, pour peut-être vivre de manière plus précaire, mais essayer de trouver un sens à sa vie. Et je pense que Nuit Debout est aussi caractéristique de ça. On voit bien que les sujets qui sont abordés, c'est l'écologie, c'est comment est-ce qu'on produit de l'énergie, comment est-ce qu'on peut produire, cultiver en ville pour recréer des espaces de partage dans les villes. C'est s'interroger sur la place de la finance, sur les circuits courts, sur l'alimentation. Finalement, toutes ces questions sont éminemment politiques et je pense que que notre génération, on se pose énormément de questions là-dessus et que ce champ de politique est en train de s'étendre et qu'il y a une recherche d'être acteur du changement, d'être acteur de la société et qui passe par aussi, on le voit, beaucoup de solutions qui se développent, des youtubeurs comme Acropolis qui essayent de décrypter l'actualité politique sur un autre ton, des plateformes comme Vox.org qui permettent aussi de s'engager, de comprendre l'actualité, de se positionner sur des sujets et puis de savoir, finalement, ça nous suffit plus en fait de pouvoir suivre le débat à la télé. Ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, comment nous on s'engage. Et c'est ce que propose Vox par exemple en permettant de suivre des sujets d'actualité et de se positionner et puis de rejoindre une pétition, une association, une mobilisation.
Puis vous, Elisa Lewis, vous êtes partie faire un tour du monde du renouveau politique. Vous avez voyagé en Espagne, en Islande, en Amérique du Sud, dans différents pays du monde. Vous êtes en train d'écrire un ouvrage sur ce renouveau politique international qui va paraître en août prochain, en août 2016, et qui s'intitulera « Le coup d'État citoyen ». Une réflexion finalement qui rejoint, vous parliez des acteurs institutionnels et quelques élus politiques qui participent de cette interrogation. Votre réflexion, d'ailleurs à l'un comme à l'autre, rejoint les propos du secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, qui hier, dans le journal du dimanche, parlait d'un décalage entre la vitalité de la société et l'inertie des structures et disait qu'il fallait aujourd'hui privilégier le travail collaboratif plutôt que la décision autoritaire. Je crois que c'est le mot de la fin, ou plutôt c'est le mot du début pour la génération. Tout qui est fait. La vôtre.
Stretch.
The Cat and the Cream de Belle and Sebastian, une chanson sur la politique britannique en ce moment. Merci beaucoup à tous les deux, Elisa
merci.
Lewis,
merci
Christophe
vous.
Nick. Je rappelle que Génération Watt, les films réalisés par Pierre Bourgeois et Simon Buisson seront sur France 4 mercredi et jeudi à 23h à raison de 2 épisodes par soir, qu'on peut se reporter au site internet interactif et qu'on suivra l'enquête en novembre qui sera donc décortiquée par les sociologues. Et puis on attend votre livre cet été, Elisa Lewis, sur cette nouvelle génération, le coup d'État citoyen. Merci encore.
Merci
à vous, au revoir.